RCF.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de cette nouvelle émission Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur et avec Monseigneur Xavier Malle. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Allez-vous bien?
Ben, très bien, malgré le temps gris et qui me fout le mouron à chaque fois. On espère que l'été va finir par arriver.
Tout à fait. L'actualité ne nous aide pas non plus, question morale.
Ah, c'est vrai, c'est pas très facile, ouais.
Alors, quel est justement votre regard sur la situation de la France?
Alors, c'est un regard un peu atterré, à la fois. Distancié. Je regarde cette espèce de jeu d'alliance, de trahison. C'est un peu atterrant, quoi. Et on se dit qu'il faut vraiment prier pour qu'on ait des élus, des hommes politiques de bon niveau, quoi. Voilà, c'est un peu terrible de dire ça, mais de bon niveau. Il nous manque vraiment des élus qui aient des charpentes intellectuelles et humaines un peu solides. Voilà, je trouve que ce niveau de nos hommes politiques n'est pas vraiment à tous les niveaux, n'est pas vraiment le bon. Donc je suis un peu sévère là, mais voilà, on paye là, à mon avis aussi, un peu tout ça, quoi.
On finit normalement notre émission sur la lecture de la dignité humaine. Oui. On peut relier peut-être à ce texte.
On peut le relier parce que c'est vraiment ce qui nous donne la cohérence pour nous chrétiens. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté dimanche dernier. Mais le choix était difficile, sincèrement. Vous voyez, pour nous, il y a une seule humanité, une seule dignité, qu'on soit un embryon, qu'on soit une personne âgée, toutes les questions d'euthanasie, suicide assisté, toutes ces horreurs-là, qu'on soit un migrant. Tout ça, c'est une seule humanité, une seule, la même dignité, chacun a la même dignité. Donc on en reparlera à la fin. Et donc voilà. Et en fait, cette dignité est bafouée dans tous les partis, en gros, quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. Les partis politiques utilisent aussi ces thèmes.
Alors, les uns et les autres, ils bafouent un tel, quoi. Mais voilà. Donc, c'est très difficile pour nous chrétiens de vraiment choisir. Donc, il nous faut éliminer, quoi. Il nous faut éliminer le moins le pire ou la pire.
C'est pas une position facile. Oui.
Donc, c'est très difficile pour les chrétiens de discerner. Alors, il y a eu un texte qui a été publié par les évêques, qui est passé un peu à l'as parce que c'était au moment ils ont choisi de le faire au moment du débarquement, la commission permanente. Mais évidemment, il y avait une actualité qui était un peu chaude à l'occasion des 80 ans du débarquement. Mais en liant un peu ce débarquement et l'Europe, etc. Mais c'est un texte qui est peut-être à relire avant les prochaines élections, qui donne un peu des éléments de discernement.
Qu'on trouve sur le site de la conférence des évêques.
Je crois aussi que le diocèse de Gap l'a remis aussi. Oui. Donc on peut le trouver. Voilà, donc on fera le vote le moins pire. Voilà, en tout cas, ce ne sera pas un vote, en ce qui me concerne, d'adhésion à aucun des candidats, aucun des partis en présence, quoi. Voilà, c'est une vraie question. Après, il y a la question du vote blanc aussi qui peut se poser aussi. Malheureusement, le vote blanc n'est pas comptabilisé en France. Donc c'est comme si on n'allait pas voter, quoi. Or, je crois que ça serait un vrai progrès de la démocratie et ça permettrait de dire, je suis d'accord avec aucun, en fait, quoi. Voilà un peu la réalité des choses, quoi.
Dommage d'avoir ce regard, excusez-moi de vous couper, mais justement, nous accueillons dans notre studio Ismaël. Bonjour.
Bonjour.
Actuellement, tu es en stage, je me permets de te tutoyer, donc tu es en stage à la radio.
Oui.
Ce que vient de dire Monseigneur, qu'est-ce que ça t'interpelle?
Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, aujourd'hui, on vote pour le moins pire et on vote sans grande conviction. Mmh. Et c'est ce qui est grave, en fait. Je me sens plus vraiment en démocratie. J'ai l'impression qu'on m'impose des candidats qui ne me conviennent pas et qui n'adhèrent pas avec mes valeurs.
Mmh. C'est ça. Ouais, voilà.
Je suis heureux qu'une jeune.
Jeunes et vieux se. Il y a un psaume qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, se lamenteront ensemble », on peut dire. Merci, oui. Merci pour ça. Alors, après, il faut pas... Parfois, les chrétiens peuvent nous demander « dites-nous un peu ce qu'il faut faire, quoi ». Et ce serait plus simple si l'épiscopat donnait une consigne de vote pour ou contre un tel, etc. Ça, c'est une période qui est révolue. pour plein de raisons. Je crois que la parole des évêques là-dessus, elle ne porterait pas de toute façon, quoi, hein. Et donc aujourd'hui, on ne donne plus de consignes de vote depuis quelques élections, mais on essaie de donner quelques critères de discernement, quoi. Quelques critères de discernement, c'est un peu ça, que chacun après se discerne dans son âme, et conscience à qui il donne son vote, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc n'attendez pas de ma part ni une consigne de vote, ni que je vous dise pour qui je vote. Mais je vous invite à relire ces critères de discernement. Et le principal, c'est justement la dignité humaine et une seule humanité. Il y avait une chose à retenir, c'est ça. Il y a une seule humanité et on n'a pas à choisir entre telle ou telle humanité, quoi.
Justement, Ismaël est dans nos locaux pour voir un peu le métier de journalisme. Elle aimerait donc faire une école de journalisme. Les médias ont un rôle important aussi dans nos décisions, dans notre point de vue aussi.
Oui, c'est un rôle très important pour la croissance de tous les auditeurs, nous aider à comprendre les choses. Et il y a un certain nombre de médias qui font bien leur travail. Après, le pape, de temps en temps, est aussi très sévère, comme il sait faire avec certains journalistes. Hein. Il y a aussi des vrais péchés de certains journalistes, des vrais péchés propres au métier de journalisme. Hein. Donc je crois qu'il me semble que le métier de journaliste, c'est vraiment d'aider à la compréhension du monde. Et donc ça nécessite une réflexion. Hein. C'est surtout pas d'imposer ses idées ou de manipuler, etc. C'est une certaine distance à avoir par rapport à ça. Oui. Après, c'est un métier très difficile, hein, pour ceux-là même, pour garder cette distance, parce qu'on n'en reste pas moins homme et femme avec ses propres idées. Il ne s'agit pas de ne pas avoir ses propres idées, mais d'écouter tout le monde, d'informer tout le monde. C'est un métier aussi qui est très important pour aussi dénoncer ce qui ne va pas. Il y a aussi cette partie-là, il y a explication du mal, mais il y a aussi parfois... comment ils disent, sortir des affaires, ou voilà, mais le journalisme d'investigation. Et dans l'Église, on en a bénéficié. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on a été victime, hein, notamment concernant quand la crise des abus sexuels dans l'Église a éclaté. Moi, je dis toujours non, c'est heureusement que c'est sorti et que le diable se réjouissait quand on mettait tout sous le tapis. Parce que c'est le prince des ténèbres, alors que quand les choses sont venues à la lumière, c'était difficile de prendre conscience de ça, mais ça nous a permis de prendre des mesures sérieuses pour lutter contre ça. Et donc je crois que c'est une partie du métier de journaliste qui est important de dire quand il y a de la corruption, quand il y a des abus comme ça. Là, on le voit actuellement, c'est les abus dans le cinéma, par exemple, etc. Donc ça fait partie vraiment de cela, tout en absolutisant pas ça non plus. C'est-à-dire que le monde du cinéma, ce n'est pas qu'un monde de pourris, d'abus. Voilà. Comme le monde politique, ce n'est pas qu'un monde de pourris. Il faut qu'on fasse attention aussi à ça. Voyez, dire tous pourris, en fait, ça nous mène à la dictature. Quoi. Voilà. Donc non, ils ne sont pas tous pourris. Je connais suffisamment d'hommes politiques, de par ma fonction d'évêque, je en rencontre beaucoup dans le diocèse, pour savoir que ce sont des gens très dévoués, notamment les maires dans leur commune. Voilà. Voilà. Avançons. Alors, le pape, il y a une belle expression, il dit « Ne nous laissons pas voler l'espérance. » Ne nous laissons pas voler l'espérance. Donc, je crois qu'on peut aussi le vivre dans la prière. Vous voyez, il y a une des messes, un des formulaires de messe, qui est la messe pour le pays ou pour les dirigeants. Voilà. Donc, peut-être que les prêtres pourraient prendre ça aussi, cette messe pour le pays, messe pour les dirigeants, confier ça au Seigneur, quoi.
Alors, vous parliez du pape, Monseigneur, il est au G7 ?
Oui, alors on va se dire, voilà, il fait de la politique, hein, puisque le G7, on se rappelle que c'est vraiment les 7 pays les plus riches du monde, hein, là-dessus, qui ont une grande partie de la richesse du monde là-dessus. Qu'est-ce que va faire le pape avec ces gens riches là ? Mais vous savez, le pape, généralement, il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, et son mouchoir par-dessus. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si ça gratouille de temps en temps. Et là, il a été invité officiellement pour parler de l'intelligence artificielle. Il devait le faire à l'ONU, il devait aller à New York à l'ONU, et puis pour des raisons de santé, à ce moment-là, il n'a pas pu y aller. Et donc, voilà, je pense qu'il a été réinvité dans une autre instance pour parler de ça. Parce que l'intelligence artificielle est aussi un vrai sujet qui inquiète les dirigeants du monde entier, qui inquiète aussi, par exemple, au niveau de la démocratie. Parce que n'importe qui peut faire des fausses interviews avec des bouts de voix, on vous crée des vraies voix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut me faire dire, moi, ici, au micro, quelque chose que je n'aurais pas dit, quoi. Vous voyez. Et donc, au niveau de la démocratie, c'est très dangereux. On sait bien que les Russes, par exemple, sont maîtres dans l'art de la désinformation de ce côté-là. Voilà, donc je pense que le pape va permettre, son objectif, c'est de donner un peu justement quelques critères de discernement aux dirigeants du monde, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et dans tout développement scientifique, il y a du bon qu'il faut garder et qu'il faut encourager, et il y a des barrières éthiques à mettre. Voyez. Vous rappelez cette expression « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc l'intelligence artificielle, c'est le fruit de la science, de l'intelligence de quelques ingénieurs, etc. Mais il faut y mettre un peu de conscience derrière et donc se rendre compte des dangers qu'il peut y avoir aussi et bien l'utiliser. Ouais.
Et l'aura du pape, justement, peut permettre aussi une prise de conscience ?
Ben, on peut l'espérer, oui. On peut espérer. Oui, parce qu'alors, quand le pape va parler, il est évident que son document a été préparé par des scientifiques. Il y a une académie des sciences qui fait partie du Vatican, hein, donc avec des scientifiques du monde entier. Ils ont dû travailler le sujet avec beaucoup de monde. Donc son discours a dû être super préparé, j'imagine. Même si de temps en temps, il sort du discours pour ajouter des paroles un peu bien senties.
La personnalité du pape aussi a une influence aussi, bien sûr. Alors, Monseigneur, on va quitter l'actualité internationale pour arriver à une actualité diocésaine, mais pas notre diocèse. On va parler du diocèse de Digne, qui célèbre deux ordinations sacerdotales ce week-end. Alors, c'est bien sûr une joie pour un diocèse, mais pour toute l'Église catholique ?
Oui, bien sûr, d'avoir ces deux jeunes qui se donnent au Seigneur. Alors, ils sont déjà donnés lors de l'ordination diaconale l'année dernière, mais qui se donnent au Seigneur à nouveau complètement et pouvoir offrir aux chrétiens le bienfait d'avoir deux nouveaux prêtres et leur service sacerdotal, donc dans des paroisses, je ne sais pas où ils seront nommés. Mais je pense que pour le diocèse de Digne, tout d'un coup, deux pour un petit diocèse comme ça, ça fait du bien. Quoi.
Est-ce que vous êtes jaloux ?
Ah non, la jalousie est un vilain péché, vous savez. Hein, des sept péchés capitaux, donc on essaie de ne pas l'être. Et surtout, on se réjouit, nous, d'avoir deux séminaristes, hein, dont l'un va rentrer en année prédiaconale. Donc il pourrait, l'année prochaine, 2025, être ordonné diacre. Vous voyez, puis 2026, prêtre. Voilà, si tout va bien, tout se passe bien, sa dernière année, etc. Donc on se réjouit de ça. Et j'invite nos auditeurs à accompagner nos deux séminaristes qui s'appellent Joseph Nguyen et Alexandre Longequeux pour de leurs prières. Ils accompagnent de leurs prières.
Alors, on va se pencher sur votre agenda, Monseigneur, et l'agenda du diocèse. Alors, vous vouliez reparler du pèlerinage des malades hier.
Oui, parce que c'était super, vraiment. C'est pèlerinage des malades, personnes isolées, personnes âgées, voilà. Et donc, à la fois, on a des personnes qui sont en institution, et institutions publiques, les maisons de retraite, les EHPAD. Et c'est magnifique aussi de voir les accompagnateurs professionnels qui les amènent dans un sanctuaire, vous voyez. Et c'est pour eux un peu la grande sortie de l'année, quoi. Donc le service, c'est le service de pastorale de la santé avec Madame Elisabeth Guy qui organise tout ça avec des équipes un peu dans les différentes paroisses de la pastorale de la santé. J'ai pu leur présider la messe hier matin. Je leur ai parlé justement du texte dont on va parler, Dignitas Infinita, la dignité infinie, pour dire que même si on est malade sur un fauteuil très diminué, eh bien on ne perd pas sa dignité. Ça, c'est le message fondamental que je leur ai donné. Puis le père Michel Desplanches, l'après-midi, leur a parlé de la prière des malades, la prière des pauvres. Voilà. Et je crois que ça les a encouragés après à aller confier quelques intentions à notre cher Benoît Rancurel, notre vénérable du Lot. Et donc, ça a été une très belle journée. Donc, bravo à toutes les équipes et bravo à tous ceux qui nous ont rejoints.
Dans un futur proche, vous êtes, Monseigneur, à Embrun ce week-end.
Je suis à Embrun ce week-end. On continue la formation sur le Notre Père, hein, la retraite paroissiale sur Notre Père. Donc là, je vais à Embrun ce week-end. Donc vu le nombre de gens qui m'en parlent, je pense qu'il va y avoir un peu de monde. Dès que je croise des Embrunais, ils me disent le dimanche prochain. Bon, super.
Ça répond à un besoin, certainement.
Ça répond à un besoin. Puis la voyageuse qu'on rencontrait hier au Lot, justement, au pèlerinage des malades, quelqu'un qui venait de Vennes, qui avait été à la retraite sur Notre Père à Vennes, qui m'a dit, est-ce que vous avez bien transmis vos textes parce que j'aimerais bien relire. Voilà. Je dis oui, je transmets au curé. Il faut la charge de lui de vous le transmettre. Voilà, donc apparemment, ça rencontre bien. Et je crois que ça... C'est une belle opération, l'année de la prière. On a vraiment une belle année de la prière avec aussi les écoles de prière. Hein. Donc, on va avoir celle au Lot samedi, demain. Mm-hmm. Hein, apprendre à prier. Donc là, c'est vraiment une école de prière, apprendre à prier. Donc, on peut vraiment inviter nos auditeurs à monter au Lot demain pour apprendre à prier. En fait, on a toujours à apprendre à prier. La prière, le bon Dieu nous dépasse toujours. Donc, on a toujours à réapprendre comment dialoguer avec lui, quoi.
On peut peut-être préciser également qu'il y a une session de formation à Rosan aussi.
Alors ça, c'est au mois de juillet de mémoire.
Voilà.
Ouais, je ne sais plus sur quel thème, oui. Voilà.
Alors le thème, la croix, le livre et la charrue.
D'accord. Donc c'est un
thème. C'est un lieu aussi où la formation est importante.
Oui, et puis surtout, on allie formation chrétienne, temps de prière, temps fraternel aussi avec les moniales. Voilà, c'est un beau lieu. C'est un beau lieu, oui. Passer quelques jours, soit c'est 3-4 jours à Rosan, à l'abbaye bénédictine de Rosan, c'est une belle expérience de vivre un temps dans une abbaye. Je ne sais pas si notre jeune futur journaliste a déjà vécu ça, mais faire un temps dans une abbaye, en tout cas.
Oui,
vous
oui.
Vous l'avez
oui.
fait déjà ? Super. C'était oui. quelle abbaye, vous vous rappelez ?
À Notre-Dame de la Salette.
Oui. Alors ça, c'est un sanctuaire, oui. ça. C'est un sanctuaire. Oui. Vous voyez la différence entre le sanctuaire, qui est comme le lot, qui est un lieu d'apparition pour la Salette, et une abbaye où ce sont des hommes ou des femmes qui font le choix de vivre ensemble toute leur vie.
Oui, voilà. Je suis aussi allée à l'abbaye de Vendry en Normandie.
Saint-Vendry en Normandie, une très vieille abbaye ça, des bénédictins, oui. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on a une abbaye de femmes sur le diocèse.
D'accord.
À Rosan, vers la Drôme là-bas. Voilà.
Nous allons parler d'une autre session, Monseigneur, proposée par le Père Thierry Sauzet, autour des animaux de la Bible. Alors, Altispie, et racontez-nous un petit peu ce que ça
Alors, le
ce
Père Thierry Sauzet, c'est un prêtre qui a une double mission, qui est d'abord prêtre, évidemment. J'ai nommé vicaire dominical à Briançon, essentiellement. Puis après, il va donner des coups de main dans les paroisses d'à côté. Il est aussi l'aumônier de l'école catholique Don Bosco Saint-Carl-Henri Père. Mais il est aussi un prêtre avec une activité professionnelle rémunérée où il est guide de moyenne montagne. Et c'est pour nous un lieu d'entrée aussi dans ce monde de la moyenne montagne, comme on a un diacre avec une chardonnay comme guide de haute montagne. Là, on a un prêtre guide de moyenne montagne, accompagnateur moyenne montagne. Et donc, il a créé une petite association, une petite entreprise plutôt, qui s'appelle Altispie. Vous pouvez aller voir sur son site internet, Altitude et Spiritualité, c'est ça que ça veut dire, Altispie. Et il organise, là, c'est en lien avec Notre-Dame du Lot, effectivement, une fois par an ou deux fois par an, des sessions qui lient un thème biblique et la randonnée. Donc une autre fois, c'était les grands marcheurs de la Bible. Alors ils ont, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc ils marchaient tous, évidemment. Là, c'est les animaux dans la Bible. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a aussi, comme accompagnateur moyenne montagne, une formation. Il s'est formé sur pouvoir raconter les traces des animaux, quels sont les animaux de nos montagnes, etc. Donc je pense que ça va être intéressant de faire le lien entre les animaux de la Bible et les animaux que les gens vont croiser ou avoir les traces au moins au cours de leur randonnée. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site du Lot aussi, ou le site d'Altispie pour faire cette randonnée. Ouais, c'est sur quelques jours.
L'inauguration, dans votre agenda également, l'inauguration de l'église de Saint-Crépin.
Oui, alors c'est super. Bravo à la municipalité. Il y a un maire très, très dynamique hein, là-bas, qui fait beaucoup de choses dans sa commune. Bravo à lui, à son conseil municipal. Et ils ont eu, pendant 2 ans, là au moins, ils ont refait toute la toiture de l'église de Saint-Crépin. Beaucoup, des très gros travaux. Et je suis heureux d'aller bénir ces travaux. Alors, en raison des élections, il ne va plus y avoir les autorités sauf le maire, mais on ne va pas avoir le sous-préfet, on peut avoir tout ça. Quoi.
Et oui, tout est bouleversé.
Tout est, voilà, ils n'ont pas le droit de sortir Bien sur sûr. Le terrain comme ça. Mais c'est pas grave, nous, on va faire, d'autant que ce sera. Alors, la date, c'est le vendredi 28 juin à 17h, et ce sera aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la nuit des églises. Donc il y aura aussi un concert, il y aura différentes choses. Donc n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à me rejoindre à Saint-Crépin à 17h le vendredi 28 juin. On va d'une part se réjouir de cette église qui est maintenant en bon état, là, et puis aussi eh bien, voilà, profiter de ce moment culturel magnifique. Ouais.
On peut saluer aussi le pèlerinage des motards, qui est une tradition.
Oui,
aussi,
alors on a quelques prêtres motards aussi, oui. dans le vicaire général.
Moi, je
ne le suis pas, mais ça m'est arrivé d'aller bénir les motards. Ils ont une très très belle prière qui les invite à la prudence. Voilà. Donc je ne peux que les inviter à la prudence aussi. Quand on bénit des motos, parce qu'il va se passer ça, c'est pas on l'a béni, maintenant tout ira bien et fais le fou sur ta moto. Non, c'est tu as une responsabilité, je bénis ton moyen de transport, tu as une responsabilité, c'est un magnifique moyen de transport, mais voilà, sois prudent.
Alors nous avions prévu également de parler du projet gouvernemental de loi sur la fin de vie, Monseigneur. On avait pris donc trois questions à chaque fois. Donc, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui également ?
Alors, je crois que c'est pas obligé de le faire parce que vous savez que la seule bonne nouvelle de la période politique, c'est que tous les projets de loi tombent à l'eau. Et que, en fait, ils ne pourront pas reprendre la discussion là où ils en étaient. Ils seront obligés de redéposer un projet de loi et redémarrer à zéro. Mais ce qui est intéressant de la période que l'on vient de voir, c'est que le soi-disant projet gouvernemental qui devait être équilibré, en fait, en 2 semaines de discussion parlementaire, toutes les barrières ont déjà sauté. C'est-à-dire, par exemple, la barrière du temps, on parlait de court ou moyen terme, là, ça peut être à long terme aussi. la barrière aussi d'une souffrance psychique, psychologique. Qui peut déterminer une souffrance psychique et psychologique? Vous voyez, donc, certain nombre de ces barrières ont sauté, en réalité, déjà. Et c'est intéressant de voir ça, le gouvernement qui voulait... On leur disait, vous ouvrez une boîte de Pandore, vous ne pourrez pas la maintenir. Elle va exploser. Et elle est explosée en cours de séance, quoi. Et donc, ce que l'on... Je pense que moi, comme évêque, ce que je peux dire aux députés qui seront élus, ne remettez pas le doigt là-dedans. Vous mettez le doigt dans un engrenage que vous ne contrôlerez jamais. Vous ne pourrez pas contrôler, quoi. Au contraire, ce qu'il y a vraiment besoin, c'est de développer les soins palliatifs. Donc faites une loi sur les soins palliatifs, oui, pour réellement les développer. Parce que vous l'avez promis depuis 10 ans, mais rien n'a été fait, en gros. Et donc, au contraire, développer les soins palliatifs. Et puis, on attend aussi la loi sur le grand âge. Oui. Ça fait des années qu'on attend cette loi. Voilà une autre priorité. Mais ce n'est pas le suicide assisté, alors qu'on lutte contre le suicide de tout le monde dans la société, quoi. Voilà. Donc, prenez les vrais sujets de société. C'est la fin de vie, effectivement, mais au sens de bien vieillir. Vous voyez, donc, le grand âge, et de bien mourir au sens de l'accompagnement par les soins palliatifs, mais pas au sens d'une piqûre... pour envoyer vers le ciel plutôt que prévu.
Alors, avant d'aborder l'enseignement autour de la dignité humaine, deux autres sujets, Monseigneur. Tout d'abord, la venue du cardinal François Bustillon.
Oui, c'est une bonne intuition là, du sanctuaire du Lot et de son recteur, le père Michel Desplanches, parce qu'ils l'ont invité avant même qu'il ne soit cardinal. Voilà. Évidemment, le fait qu'il est cardinal, ça augmente tout de suite la communication et la publicité. Donc, je crois que c'est une retraite pour les prêtres.
Donc, hein, il est évêque d'Ajaccio.
Il est cardinal et évêque d'Ajaccio. Et donc, c'est une retraite pour les prêtres, c'est pas pour tous nos auditeurs, mais nos auditeurs peuvent prier pour leurs prêtres qui iront. Et je sais qu'un certain nombre de prêtres du diocèse y participeront. C'est la raison pour laquelle on a déplacé notre journée de fin d'année des prêtres, qui devait être début juillet. Et à la place, on va le faire, je crois, le 28 juin. Pour cette journée, on fait maintenant depuis plusieurs années, on propose aux prêtres, suivant les forces de chacun, ou les appétences de chacun, plusieurs plans. Le plan A, c'est le plan sportif. Donc là, on va faire une descente d'endurance en bateau, là, comment ça s'appelle ?
En radeau.
En radeau, là, du raft. C'est ça, du rafting, là.
C'est ça.
Après, bon, l'an dernier, on avait fait pire encore. On avait fait des gouffres, comment on appelait ça ? Les spéléos aquatiques dans le dévolu. Voilà. Et puis l'année d'avant, c'est plus ce qu'on avait fait.
Voilà, des prêtres l'année d'avant,
on avait fait le glacier, la marche sur glacier à la grave, quoi.
Ce sont des défis, un petit peu.
C'est des défis. On n'est pas très nombreux, hein, sur les 30 prêtres en pleine activité. On se retrouve à 10 à faire ça, généralement. Mais c'est sympathique. Voilà. C'est un beau moment entre prêtres. Le plan B, c'est pour ceux qui sont encore en jambes, mais moins risque tout. Voilà, puis c'est même adapté aux autres. Ça sera l'exposition Ousmane Chau à Mont-Dauphin. Vous voyez, de cette exposition d'un artiste africain sur la dernière bataille entre les peaux rouges et les tuniques bleues, on pourrait dire, qui est une exposition magnifique, en fait, pour rentrer un peu dans cette histoire américaine. Et puis pour tous, donc on aura la messe en fin de matinée, un repas dans un restaurant là-bas à Mont-Dauphin et une visite guidée par des guides du patrimoine de la forteresse de Mont-Dauphin, quoi. Voilà, donc ce sera un beau moment des prêtres, de sortie de fin d'année, de vie fraternelle entre prêtres.
La vie fraternelle peut être vécue aussi dans un camp de jeunes ou à Venise. Hein, plus de 100 jeunes sont déjà inscrits.
Oui, moi le problème c'est que je suis jeune depuis plus longtemps qu'eux, donc je n'ai pas le droit d'y aller. Mais,
Vous le regrettez.
J'ai la joie d'avoir déjà visité Venise quand j'étais séminariste à Rome. Après les examens de février, on avait quelques jours et j'allais visiter un peu les villes comme ça, quoi. Donc j'ai eu la joie d'aller visiter Venise, qui est une des plus belles villes du monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez cette occasion-là.
Non,
des
je
plus
n'ai pas eu cette chance.
Et donc, voilà, je crois qu'ils vont emmener beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont inscrits. Je crois qu'il y a 130 jeunes inscrits. Donc, c'est vraiment très important. Et bravo à toute l'équipe, la pastorale des jeunes, avec le père Damien de Beaumont, sœur Ursule et d'autres prêtres qui accompagnent, et accompagnateurs et accompagnatrices. Bravo à eux pour cela. Alors, leur faire découvrir Venise, c'est non seulement la beauté de cette ville plantée au milieu de la mer, si j'ose dire, que leurs petits-enfants à eux, peut-être, ne verront pas, parce qu'elle sera peut-être sous l'eau avec la montée des eaux. Hein, mmh. Donc, j'allais dire, c'est le moment d'y aller. Mais en même temps, c'est aussi un pèlerinage pour eux, un temps de formation. Il y a aussi des lieux saints à Venise, la basilique Saint-Marc, etc., quoi. Voilà, donc bon voyage à nos jeunes. Et on les retrouvera, je les retrouverai, moi, l'année d'après, par contre, à Rome, à nouveau, pour le jubilé 2025, où il y aura des sortes de journées mondiales des jeunes à Rome. Et là, j'invite notre... jeune journaliste en herbe.
Oui, pourquoi pas.
Rome était fin juillet, début août 2025.
Vous notez ça sur l'agenda. Nous passons à l'enseignement, Monseigneur, avec le texte du Vatican sur la dignité humaine.
Alors, on en était, on arrive au chapitre 4, qui est le chapitre un peu concret. Vous savez, il y a eu trois chapitres très théologiques, qui étaient peut-être un peu compliqués pour nos auditeurs, sur le fondement de la dignité humaine. Avec le pape qui concluait en disant, en gros, il y a trois fondements pour nous chrétiens. La dignité humaine, d'une part, on est des êtres créés par Dieu. Voilà. Deuxièmement, Dieu a pris notre chair, c'est l'incarnation, Jésus s'est fait homme. Et puis, pour nous, la troisième raison chrétienne de dignité humaine, c'est qu'on est fait pour le ciel, quoi. Et donc on est digne du ciel. Oui, on est digne du ciel. Voilà. Donc après la dignité humaine, le pape le rappelle à de nombreuses reprises. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour la déterminer. Et le pape souligne l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous voyez là-dessus qui parle de la dignité humaine. Voilà. Donc là, le pape dans son dernier chapitre, chapitre 4, c'est pas le pape. Hein, je vous rappelle, c'est un texte du dicaster pour la doctrine de la foi approuvé spécifiquement par le pape. Voilà. Donc le dicaster parle de quelques violations graves de la dignité humaine. Et donc, que retenir de tout ça, pour ne pas tout lire de A à Z, hein. Le Concile Vatican II a enseigné des choses là-dessus, hein, il y a plus de 60 ans maintenant. En gros, s'oppose à la dignité humaine tout ce qui s'oppose à la vie elle-même. Oui, s'oppose à la dignité humaine tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, de génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré. Oui. Et ça, c'est le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, hein, c'est une citation du Concile. Ouais. Et aussi tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, ouais, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques. Et puis finalement, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes, des jeunes, ou des conditions de travail dégradantes. Vous voyez, donc il y a un peu trois sources de ces violations. C'est tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, tout ce qui s'oppose à l'intégrité de la personne humaine, et tout ce qui s'oppose à la dignité, des offenses à la dignité elle-même. Vous voyez. Alors il y a un petit sujet que le pape décline, c'est le sujet de la peine de mort qu'il veut mentionner aussi. Elle aussi, dit le pape, viole la dignité de tout être humain, inaliénable en toutes circonstances. Il faut au contraire reconnaître que le rejet ferme de la peine de mort montre à quel point il est possible de reconnaître l'inaliénable dignité de tout être humain et d'accepter cette place dans cet univers. Étant donné que si je ne la nie pas au pire des criminels, je ne la nierai à personne. Je donnerai à chacun la possibilité de partager avec moi cette planète, malgré ce qui peut nous séparer. Ça, c'est quelque chose dont est bien conscient tous nos chrétiens qui font des visites à la prison, hein, le service de la pastorale de la prison, avec Pierre-Marie Estève et le père Jean-Marie Dezon comme accompagnateur. Voilà. Quel que soit le crime ou le délit qu'on a pu commettre, on ne perd pas sa dignité humaine. Oui. Et ôter la vie par la peine de mort, eh bien, c'est ôter la dignité humaine, quoi, aussi. Or, on a aujourd'hui des moyens de faire autrement que la peine de mort. C'est ça la grande évolution, quoi. Alors après, donc le texte dit au paragraphe 35, « Sans prétendre à l'exhaustivité, nous attirons dans ce qui suit certaines violations graves de la dignité humaine qui sont particulièrement d'actualité. » Et là, il y en a, je ne sais plus combien, 12 ou 13 sujets qu'on va prendre petit à petit. Voilà. Alors le premier sujet attiré, c'est le drame de la pauvreté. Voyez, l'extrême pauvreté liée à la répartition inégale des richesses. Le pape Jean-Paul II l'avait déjà signalé, l'une des plus grandes injustices du monde contemporain consiste précisément dans le fait qu'il y a relativement peu de personnes qui possèdent beaucoup, tandis que beaucoup ne possèdent presque rien. Alors un petit témoignage qui m'a frappé. Hier, j'avais une grande réunion avec l'enseignement catholique, avec les directeurs, les tutelles, etc. Et puis hier soir, on a dit au revoir à certains, d'ailleurs, c'était la soirée des départs, au revoir à certains qui quittent le service du diocèse ou le service d'enseignement catholique. Et nous invitons maintenant de plus en plus les établissements à faire des tarifications différenciées, voyez.
Et selon les revenus.
Et à Briançon, ils ont mis ça en place. Eh bien, les personnes qui avaient des hauts revenus nous disaient ben, « faites une tranche de plus. Nous, on peut payer. Il est juste qu'on puisse payer pour ceux qui n'ont pas de moyens ». Voilà un beau témoignage, vous voyez. On va peut-être s'arrêter là-dessus, c'est ça, encore quelques secondes.
Tout à fait, il nous reste 15 secondes. On doit juste peut-être le temps de... Voilà, le paragraphe est terminé.
Voilà, le paragraphe est terminé, mais on voit bien que c'est un sujet qui nous relie aussi au jubilé 2025. Vous vous rappelez, jubilé en 2000, il y avait eu la remise de la dette. C'est des vraies questions à se poser au niveau international.
On en reparlera à la prochaine émission, Monseigneur. Ismaël, merci d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.